Vous écoutez RTL.
Et c'est parti.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Florin.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alain Souchon et Laurent Voulzy ont marqué l'année 2016. Dans un instant, ils vont nous raconter les coulisses de leur première tournée en duo, désormais disponible en CD-DVD. Une sélection de livres ludiques avec Bernard Lehu, un florilège d'anagrammes, un carnet de route dans le Paris littéraire et un répertoire de métiers improbables créés à partir d'expressions françaises. À la télé ce week-end, Isabelle Morini-Bosque nous conseille de regarder dimanche à 21h sur M6, La plus belle ville du monde, un documentaire animalier en plein Paris qui met en scène une quinzaine d'espèces inattendues dans la capitale. Et puis on prendra la direction du MUCEM à Marseille en compagnie de Monique Younes qui a visité pour nous l'expo Café In, un voyage passionnant qui retrace à travers plus de 300 œuvres l'histoire du café dans le monde.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Allez. Alain Souchon et Laurent Voulzy nous ont régalé sur scène cette année. Le CD-DVD de leur première tournée en duo est disponible. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour.
Vous les avez rencontrés pour faire le bilan de cette parenthèse à deux.
Alors on pensait qu'au bout de 40 ans d'amitié, l'un n'avait plus de secret pour l'autre. Et bien cette année et demie passée en duo sur les routes et les 3 heures partagées chaque soir sur scène ont permis à Souchon et Voulzy de se découvrir encore un peu plus.
Alain a une façon de se déplacer, de faire des choses, etc.
Je suis en maillot de bain,
moi
faut
aussi,
dire.
Donc ça...
Donc... Il découvre mon corps, tu t'es quand même impressionné.
Oui, oui, impressionné. Oui. Je l'avais vu au bord de la mer, mais sur une scène, j'ai découvert
c'est pas pareil.
Qu'avez-vous appris sur Laurent ?
Eh bien qu'il est d'une manière maladive et merveilleuse en même temps, sensible au son. Toute sa vie sur scène est quand même menée par le fait qu'il entende bien ou qu'il n'entende pas bien. Et ça veut dire que sa vie, c'est la musique. Un point dingue.
Alain a une marge de tolérance beaucoup plus large. Ça, c'est une chose. Moi, je suis toujours très, très lent. Et Alain est très rapide. Donc, Alain peut trépigner gentiment. Et je suis un peu désolé de le faire attendre. Voilà.
Je suis trépigneur. Enfin...
Comme elle est partie.
En même temps, des fois, je suis spectateur. Par exemple, la balade de Jim, je suis derrière avec mes guitares, parce qu'Alain chante devant, et moi, je regarde les gens. Et c'est à ce moment-là que les gens descendent et viennent devant. Eh ben, je vais vous dire un peu, pour moi, c'est jouissif, quoi.
C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit des espèces de notables en province et tout, qui sont en costard et tout, qui sont venus avec leurs femmes. Ils ont un peu de bide et tout, mais ils ont notre âge et tout, puis ils sont là... Et la petite fille, ils chantent en levant les bras,
c'est
en
génial.
Hurlant. Et...
C'est hyper touchant, quoi.
Ah ouais.
On a tout dans le cœur, une petite fille oubliée, une jupe plissée que cheval à la sortie du lycée. On a tout dans le cœur, un morceau de ferraille usé, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier.
Et la petite fille chantait évidemment. Extrait du CD-DVD Souchon Voulzy, le concert. Cet album Souvenir est beau, jubilatoire, touchant. 30 titres, presque l'intégralité du spectacle.
Oui, non, oui. Non, attendez, j'ai fait des chansons tout seul. Paroles et musique, il n'y en a aucune. Et ça, ça m'a fait souffrir.
On avait pris un accord, Alain, je te le répète.
Rien, allez, tu dégages ça. Mais il a fait Amélie Colbert, c'est un chef-d'œuvre. Il a fait paroles et musique et c'est dessus.
Si vous aimez moi.
Tout à fait, Fou Sentimental qui est un chef-d'œuvre qui est dessus. Voilà, le reste, on l'a fait tous les deux.
C'est vrai.
Fou Sentimental, avec soi l'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que les choses pas commerciales.
Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire et de composer ensemble pendant cette tournée ?
Non. Moi, quand je suis sur l'extérieur, que je suis avec mon maillot de bain sur scène et tout, je ne peux pas... Il faut après que je me retrouve tout seul pour pouvoir faire des chansons. Mais Laurent, je sais pas, il peut dans sa chambre d'hôtel.
Ouais, moi, des fois, j'installe dans la chambre mon ordinateur, un clavier, un micro. Ça m'arrive. Ouais. Ou le matin.
Ouais, ouais.
Mais j'aime bien aussi profiter, visiter les lieux.
Enfin, bon, c'est quand même des métiers qui rendent fou.
C'est aussi une vie de roulotte, une tournée, ça on le sait.
On ne prend aucune initiative, on n'est que des chanteurs. On nous emmène en voiture, on a chacun une voiture comme Patrick Bruel, en fait. Si, avec des vitres teintées et tout. On nous installe dans un bel hôtel. On a nos somnifères pour pouvoir dormir. Et puis, et le lendemain, on visite la cathédrale d'Amiens, le musée Toulouse-Lautrec à Albi. On va voir, voilà. Lui, il a été voir la tapisserie. Ça m'énerve parce que je suis pas allé, moi.
La tapisserie de Bayeux, de Guillaume le Conquérant, 60 mètres de long.
Les capitaines mots, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça.
Voilà pour le récit des coulisses de la tournée Souchon-Voulzy, par Souchon-Voulzy. On retrouve donc tout ça en CD-DVD.
Il vous donne une patate, les deux, là. Hein, quand vous sortez de la salle, c'est
un bonheur incroyable.
Alors maintenant, chacun est retourné à son petit projet solo. Enfin,
oui,
petit.
Oui. Non, mais chacun travaille en solo. Alain Souchon, lui, avec ses fils Pierre et Charles, à l'écriture du Soldat Rose 3. Il succède à son ami Cabrel, qui avait signé le 2. Laurent Voulzy, lui, vient de créer son propre label. Il va produire de jeunes talents, à commencer par la musicienne Hélène L, qui les a accompagnés sur une partie de la tournée. Et puis bien sûr, Laurent Voulzy travaille, ça, on l'a déjà dit, sur son spectacle musical autour du personnage de Jeanne d'Arc.
Et merci Anthony. Puis puisque je vous tiens, j'en profite pour annoncer ce rendez-vous sur RTL. On vous retrouve demain à 18h30 avec toute l'équipe aux commandes d'une émission spéciale Laissez-vous tenter, fête ses 15 ans.
Oui, on vous offrira un feu d'artifice pendant 1h30. On va feuilleter ensemble l'album souvenir de 15 ans d'émission sur RTL. Des moments forts avec des légendes, des extraits de reportages, les confidences des artistes qui nous sont fidèles, des pépites, des fous rires, des rencontres inattendues. On réécoutera tout ça. Et c'est finalement, on s'est rendu compte, beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? De surprises et de bonne humeur garantie. Voilà, donc c'est demain samedi de 18h30 à 20h.
Le rendez-vous est pris évidemment dans un instant. Bernard Lehu et sa section de livres.
Il y a un cadeau là pour les 15 ans? Il y a un gâteau? Non,
j'ai pas vu le gros gâteau.
Bon. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Florin.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Vous nous proposez 3 livres pour ne pas arriver les mains vides demain au réveillon. Alors, 3 idées de cadeaux originales, 3 ouvrages qui pourraient bien animer les conversations autour de la table.
Et on commence par Mon pari littéraire de François Bunel, le présentateur de l'émission La Grande Librairie sur France 5, dresse la liste de ses librairies préférées à Paris. Paris, vous le savez, c'est la capitale mondiale des librairies. Il y en a près de 400. Ce guide sonne comme un vibrant plaidoyer pour les librairies indépendantes. Elles sont au premier citadins, ce que sont les refuges de haute montagne aux alpinistes, écrit François Bunel.
Et puis c'est aussi un vrai guide touristique. Hein.
Ah ben oui, parce qu'il propose les meilleurs endroits où bouquiner en paix, café, jardin, square, les bonnes adresses où se restaurer après votre lecture, et surtout des itinéraires littéraires dans Paris, des flâneries sur les lieux où sont passés nos plus grands écrivains et les personnages qu'ils ont créés. François Bunel les a classés par arrondissement, un exemple dans celui de RTL, le 8e.
Il faut que tous ceux qui nous écoutent aillent faire un tour aux 30 Champs-Élysées. Là, vous fermez les yeux, vous vous dites qui avait-il en 1830-1840 ? Eh bien, il y avait la demeure du comte de Monte-Cristo. C'est là, aux 30 Champs-Élysées, qu'Edmond Dantès, revenu après 14 ans de forteresse sous les traits de Monte-Cristo,
s'installer
et puis peaufiner sa vengeance.
La vengeance.
Mais vous savez, Bernard, moi je trouve qu'aujourd'hui, un homme politique qui aurait un peu de cran et qui voudrait donner envie de lire à toutes les Françaises, à tous les Français, débaptiserait un certain nombre de rues, de collèges, de places. On a des rues d'hommes politiques qui ont été, sinon des criminels, du moins de piètres politiciens. Et on pourrait par exemple se promener un passe Nana, descendre l'avenue Prince Michkin, se balader dans le square Edmond Dantès, aller faire un tour. Et du nom de ces personnages qui pour moi sont beaucoup plus vivants que bien de nos politiciens.
Mon pari littéraire de François Bunel, ça c'est chez Flammarion, ça coûte 19,90 €.
Et un deuxième petit livre original si vous voulez briller demain soir autour de la table, Anagramme pour lire dans les pensées.
Anagramme, vous savez, hein, on mélange les lettres d'un mot ou d'un groupe de mots pour en former d'autres. Alors Jacques Perry Salco, l'auteur de ce livre, est le Mozart de l'anagramme, un génie. Et il va toujours dénicher un sens caché, c'est souvent assez vertigineux. Le mieux, c'est de vous donner des exemples. Le baiser du soir, eh bien, ça devient libido rassuré. La messe de minuit, le matin du Messie.
C'est vrai.
Montaigne la Boétie, vous connaissez, c'est un métier entre les deux hommes, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Eh bien, Montaigne la Boétie, ça donne toi, ange et noble ami. Puis alors, parfois, c'est fascinant l'écho que ça rencontre avec l'actualité. Le réchauffement climatique, vous mélangez tout ça, vous remettez dans un autre ordre. Ce fioul qui tache le firmament, qui attise le mal, ça donne l'État islamique. C'est assez fascinant. Incroyable. Un dernier exemple, Hadès qui était le dieu grec des enfers, eh bien ça donne Daesh. Anagramme pour lire dans les pensées de Jacques Péricelco, accompagné des réflexions philosophiques de Raphaël Antoven. C'est publié chez Actes Sud, ça coûte 15 euros.
On finit par l'enculeur de mouches, Bernard.
Comment ? Et autres métiers improbables, je complète le titre. Voilà 62 métiers imaginés par l'auteur Emmanuel Trédez à partir d'expressions françaises populaires. Alors les portraits de ces professionnels improbables et imaginaires sont pleins d'esprit, de jeux de mots, de trouvailles langagières, bien sûr. Je cite, l'enculeur de mouches, parmi les entomologistes, il est de loin le plus méticuleux, ça va de soi. Cela suppose d'avoir de très bons yeux et de bien maîtriser ses gestes. Souvent, l'enculeur de mouche apprécie de se rendre chez le coupeur de cheveux en quatre. Voilà des gens faits pour s'entendre. Alors, il y en a toute une galerie comme ça. Le lécheur de bottes, l'enfonceur de portes ouvertes, l'avaleur de couleuvres. Et puis, peut-être que pour la nuit du réveillon, vous aurez besoin d'un remetteur de pendule à l'heure sur les coups de minuit. L'enculeur de mouche et autres métiers improbables, ça je ne pensais jamais prononcer ces mots à l'antenne, c'est publié au Castor Astral, 12,90 €.
Et c'était avec le lecteur de livres Bernard Lehu. Merci Bernard. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour.
On n'a pas beaucoup d'inédits ce soir à la télé. Je note, si on veut danser et chanter en cette fin d'année, la spéciale disco sur France 3.
Oui, l'émission très sympathique ne prétend pas livrer une analyse sociologique poussée de l'époque. On comprend néanmoins que les jeunes veulent, dès le milieu des années 70, s'éclater le samedi soir, s'ébrouer d'un quotidien souvent pesant. C'est exactement l'histoire de la fièvre du samedi soir avec le tube planétaire Staying Alive. Et on est frappé, honnêtement, par la beauté de Travolta. On avait un peu oublié. En France, les métiers sont d'abord perplexes devant le disco. En tout cas, Daniel Gilbert et Roger Jiquel.
Il y a un mot très à la mode. Tu sais que j'ai encore pas compris ce que c'était. Faut croire que je suis vraiment bête. C'est disco.
Et maintenant, ça va faire boum, boum, boum.
Alors, les anglo-saxons sont les rois du genre, oui, mais pas que. Écoutez Alexandre Balou en 77 sur RTL.
Encore une petite minute, car il s'agit d'écouter un disque appelé peut-être à connaître un très très gros succès, à être le tube de l'été. Écoutez, et vous allez voir si vous reconnaissez.
Love me, baby, with emotion.
Love me baby, il est entré.
Steven Bellery, vous en a parlé hier,
chez là.
Là aussi, succès planétaire. Voilà. Donc, c'est à découvrir ce soir sur France 3.
Et on adore les archives d'RTL, c'est toujours un bonheur. Mais on note dimanche un vrai programme familial instructif.
Oui, c'est dans l'esprit du plus beau pays du monde qui avait fait découvrir le petit monde de nos forêts. C'est exactement le même réalisateur, Frédéric Foujas. Cette fois, il est dans la plus belle ville du monde, c'est sur M6. La narratrice, c'est Audrey Fleurot. On découvre un phénomène nouveau, le retour des animaux sauvages dans nos villes. Retour logique, puisque leur zone territoriale diminuant pour cause d'urbanisation ou de culture intensive, du coup, ils viennent là où il y a de la nourriture, la ville, surtout Paris. Étape notamment incontournable pour les oies en cours de migration. Pas de bol, leur lieu privilégié, c'est l'hippodrome de Longchamp.
Première étape pour notre famille de voyageuses, le meilleur restaurant gastronomique de la capitale, l'hippodrome de Longchamp. Venir déjeuner à Longchamp, c'est une véritable tradition familiale. Phase de descente, position d'approche, préparez-vous pour l'atterrissage. Et maintenant, le festin, arrosé et tondu juste à point. Ce que les oies n'ont pas calculé, c'est qu'il ne faut pas arriver dans ce resto-là un dimanche.
Eh oui, parce que bivouaquer le jour des courses, dans les pattes des chevaux, c'est pas bon pour les pattes d'oie, si j'ose dire. Autre couple qu'on adore voir, c'est les castors, près du canal de l'Ourcq, créé par Napoléon Ier.
C'était il y a 200 ans, mais aujourd'hui, monsieur et madame Mio Castor s'en fichent pas mal. La seule chose qui les intéresse, c'est de trouver un logement tranquille dans la capitale. Il faut dire que depuis quelque temps, la vie à la campagne est devenue fort dangereuse. On les piège, on les empoisonne, on leur tire dessus, on les accuse de creuser des galeries qui font écrouler les routes. Et les routes, elles ne font pas s'écrouler leurs galeries.
Vous découvrirez les renards de traversant Paris de nuit, éventrant les sacs poubelles, les faucons pèlerins qui raffolent des pigeons. Il y a une plongée sur un pigeon qui est absolument spectaculaire. On peut regretter la volonté forcenée des auteurs de raconter obligatoirement une histoire. On n'est pas loin de l'anthropomorphisme par moment, mais l'ensemble reste poignant, drôle, bref, forcément au poil.
Et un peu à plume. Merci
c'est
beaucoup.
Sur M6.
Merci beaucoup, Isabelle. On boit la tasse de café dans un instant avec Monique Younes. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter
avec Jérôme Florin.
Bonjour Monique Younes.
Bonjour.
On va à Marseille pour cette dernière chronique de l'année, non seulement à cause du beau temps, mais parce qu'au Mucem, nous pouvons voir jusqu'à fin janvier une exposition inédite sur le café, qui a pour titre Caféine.
Oui, une exposition où l'on apprend que c'est à Marseille qu'a ouvert au XVIIe siècle le premier café en France, après que l'aventurier et négociant Jean de la Roque y ramène de Constantinople les premières fèves de café. C'était en 1644, m'a précisé le commissaire de l'exposition, Jean-Michel Dian.
Il venait pas seulement avec des balles de café, on appelait ça des balles, des sacs de jus de 60 kilos, mais il venait avec les ustensiles. Toute la civilisation, l'usage domestique du café tel qu'il était consommé à Constantinople puis à Istanbul est venu avec. C'est-à-dire qu'on a vu ici le premier grand café, eh bien, il s'appelait le café turc. Et le café turc, c'était vraiment l'endroit où il fallait se montrer. C'est là où les femmes mondaines montraient leurs toilettes.
Voilà, tout au long de l'exposition Caféine, vous allez découvrir l'histoire du café. Il y a des cartes, des photos, une multitude de documents d'archives, des objets usuels de toutes les époques, des œuvres d'art, des faïences, des boîtes précieuses.
Caféine, il y a un jeu de mots. Hein. Je viens de comprendre, excusez-moi.
Bien sûr. Et donc, vous découvrirez effectivement que les premiers caféiers ont été découverts au 5e siècle en Éthiopie, qui s'appelait alors l'Abyssinie. Le philosophe persan Avicenne a été un des premiers, autour de l'an 1000, à vanter les vertus excitantes du café. D'où le nombre sans cesse croissant d'adeptes. Et en France, le plus célèbre des addicts au café se nommait Napoléon. Et son moulin à grains de café, que vous verrez au Mucem, était de toutes les campagnes.
Un moulin à café poignard.
Le poignard était où ?
Planqué au-dessous. Napoléon était un addict du café, comme Balzac, qui en boit jusqu'à 50 tasses par jour. Donc j'ai retrouvé cette affiche.
Balzac était le Georges Clooney de son époque.
Oui, il servait à vanter les cafés venant du Brésil, ce qui est quand même étonnant. Il y a toujours eu des figures pour porter le café, comme Bourringer pour vendre les cafés Malongo, ça a été Fernandel pour vendre les cafés Mignard, Clooney aujourd'hui.
50 cafés par jour pour Balzac, gaga gaga. Le café, c'est aussi un thème qui a inspiré beaucoup les artistes.
Oui, il a été un objet de création, notamment chez les photographes, de Robert Doisneau à Brassailles. Et de toutes les œuvres exposées au Mucem, ma préférée est celle de l'artiste sud-africain William Kentridge, qui a dessiné à l'encre de Chine, sur des pages de dictionnaire, des cafetières anthropomorphiques. C'est pour lui le symbole du rapport entre la domesticité et le café. Quant à Jean-Michel Dian, son cœur bat pour la pièce la plus spectaculaire de l'exposition.
Ça s'appelle Café. C'est une vraie cathédrale miniature, mais fabriquée avec 251 cafetières soudées entre elles et qui symbolise à Cuba le rapport entre l'ambiance des cafés, des plantations de café, les cafétales, comme on disait, et puis la religion catholique omniprésente. Et donc cet artiste Roberto Fabello, qui est un grand artiste cubain, m'a prêté cette œuvre, m'a proposé de la refaire ici. C'est magique.
Ce qui est sympathique dans l'exposition Caféine au Mucem, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de représentation du café à travers les âges et les arts, et de montrer comment le café est un miroir de notre société, mais on peut aussi y apprendre la variété des arômes du café. Et puis comme le chef étoilé Pierre Gagnère fait aussi partie de l'aventure de Caféine, il a inventé pour le Mucem des recettes succulentes à base de café que vous retrouvez dans le catalogue de l'exposition Caféine, édité par Actes Sud. Quant à l'exposition Caféine, elle se tient au Mucem jusqu'à fin janvier et celui qui aura la bonne idée de m'offrir un café aura bien terminé l'année.
Bon, on va faire ça tout de suite.
Ben super.
Merci Monique, merci à toute l'équipe et je rappelle qu'on vous retrouve tous demain soir à partir de 18h30 sur RTL pour une émission spéciale. Laissez-vous tenter, fête ses 15 ans. Julien Courbet, juste après ça.